9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Cette semaine, on s'est beaucoup inquiété pour l'avenir des cafés, des restaurants, des commerces. Combien risquent de mettre définitivement la clé sous la porte ? Mathieu Plane, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques, est en direct dans ce studio. Cette semaine, on a beaucoup parlé également du procès de Jonathan Daval. Pourquoi une affaire aussi banale suscite-t-elle autant de curiosité ? Bob Garcia, auteur d'Anatomie du fait divers, va nous l'expliquer. Cette semaine toujours, on a beaucoup parlé de la chanteuse Bonnie Banane, mais c'était dans les journaux. Il serait temps d'entendre sa voix. Elle sera avec nous à la fin de cette émission. Bonjour Mathieu Plane, je l'ai dit, vous êtes directeur adjoint à l'OFCE. Alors c'est quoi l'OFCE ?
Alors l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. On est rattaché à Sciences Po.
Vous êtes indépendant du gouvernement.
Hein. Oui, on est le centre de recherche en économie de Sciences Po. Donc oui, on est indépendant du gouvernement.
Vous faites des prévisions macroéconomiques. Vous rendez beaucoup de rapports d'impact, notamment sur le coronavirus. Du coronavirus plus exactement, sur l'économie française.
C'est notre rôle hein, de faire de l'évaluation de politique publique et de la prévision économique. Il se trouve là qu'on est dans un nouveau contexte hein, qui est extrêmement dur, mais extrêmement intéressant pour nous, hein, justement, qui est la nécessité de prévoir dans un environnement totalement nouveau, avec des chocs très hétérogènes, on va en parler, mais des secteurs sont touchés de façon très différente. Donc ça nécessite d'avoir une approche très, très fine, en fait, hein, des chocs, avec des réponses de politique économique assez complexes. Et on voit une crise qui s'étend aussi sur la durée, qui n'est pas juste un choc temporaire, mais avec des conséquences relativement durables et très liées aux mesures prophylactiques. C'est les décisions qui peuvent être prises pour contrôler la diffusion de l'épidémie. Donc il y a une interaction entre le sanitaire, l'économique et le social qui est très nouveau.
Alors on a parlé du Black Friday qui a été reculé. On espère sauver un certain nombre de petits commerces qui pourront rouvrir à cette occasion, on l'espère encore. Mais l'impact du Black Friday, c'est si grand que ça ?
Alors, on voit qu'il y a une montée en puissance de ce type d'événement, hein, avec une grosse communication quand même. Hein,
Ça vient des États-Unis,
c'est un moment qui se place, on va dire, quasiment un peu moins d'un mois avant Noël, qui permet d'anticiper un certain nombre d'achats. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Ça n'a rien à voir avec des soldes, hein, et donc c'est une promotion faite par des commerçants hein, en ligne ou sur des commerces physiques. Et ça représente aujourd'hui 6 milliards à peu près de dépenses spécifique au Black Friday, donc globalement c'est à peu près 3 fois plus que ce qu'on fait sur un week-end normal, hein, les commerçants, donc c'est pas négligeable. Après, il ne faut pas penser que l'ensemble de l'activité de ces commerces se joue que sur le Black Friday, mais dans la situation actuelle, étant donné les difficultés actuelles des commerçants, pour eux ça devient un jour important, parce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre d'achats qui n'ont pas été réalisés pendant le confinement pourront avoir lieu à ce moment-là, s'ils ne peuvent pas rouvrir. Le risque, c'est que les consommateurs se reportent sur des sites en ligne.
Alors ça a l'air d'être très important aussi pour les consommateurs, puisque d'après les sondages, 72% des Français veulent en profiter du Black Friday. Je me souviens que la revue Que Choisir avait fait une enquête sur le Black Friday, c'était il y a 2 ans, me semble-t-il, et ils avaient enquêté sur 32 000 produits, et ils s'étaient aperçus que seulement 8% des articles voyaient leur prix réellement baisser, 8% seulement, et qu'en moyenne, donc, ça faisait 7,5% de réduction. C'est très très peu.
Oui,
c'est
finalement,
comme dans les duty-free, en fait. On croit qu'on fait des affaires,
non,
mais
c'est
on
pour
en
ça.
Fait pas.
Il y a aussi un effet de communication assez fort avec des produits tête de gondole qui sont certainement avec des promotions intéressantes et puis d'autres achats finalement qui le sont beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une communication très forte et ça se place à un moment où de toute façon il va y avoir des achats importants et les petites affaires, même si c'est des petites affaires, on a l'impression de faire quand même une bonne affaire à ce moment-là parce que effectivement dans les semaines après on va payer. Le prix fort, en tout cas, juste avant les cadeaux de Noël. Donc c'est vrai qu'il y a cet enjeu-là. Maintenant, quand on regarde sur les effets de prix, ça reste quand même assez marginal. On n'est pas dans des soldes, par exemple. Il faut faire attention à ça. Hein. C'est pas des soldes. On n'a pas le droit, dans le cadre du Black Friday, de faire de la vente à perte. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de différent. On ne pouvait pas avoir les mêmes rabais que ce qu'on peut avoir sur les soldes, par exemple.
Alors, tous ces petits commerces qui sont terriblement menacés aujourd'hui, ceux qui sont fermés et qui pourraient rouvrir à cette occasion, ils sont dans quel état pour l'OFCE quand vous les étudiez, ceux-là ?
C'est pareil, on est dans un monde un peu nouveau, hein, où on a besoin d'avoir des données en temps réel, hein, ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, il faut explorer les données, par exemple, de carte bleue, de ce qui se produit réellement. D'avoir aussi ce qu'on appelle les données de Google Mobility qui permet de voir la fréquentation des magasins. Ce qu'on voit, c'est que la situation est dramatique, ça c'est clair. C'est un choc comme on n'a jamais vu, hein, d'un point de vue macroéconomique. Déjà, on a quelque chose qui est déjà sur le premier semestre, qui était déjà 6 fois supérieur à la crise de Lehman Brothers, hein, en termes d'impact d'activité. On perd 19% de PIB en l'espace d'un semestre. Hein. Suite à la faillite de Lehman Brothers, on avait perdu 3% du PIB. Donc c'est colossal.
Je rappelle que c'était la fameuse crise des subprimes.
Qui est la plus grosse crise d'après-guerre. Hein. Et donc on est dans quelque chose qui est hors norme, XXL. Et en plus, quand on regarde spécifiquement, on s'aperçoit que les chocs sont très hétérogènes selon les secteurs. Et que les secteurs les plus impactés sont forcément les secteurs qui sont liés au tourisme, très clairement, forte interaction sociale. Et puis les secteurs du transport. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'économie française est spécialisée, notamment dans un certain nombre de services, services de proximité, des activités culturelles, de loisirs, hôtellerie, restauration, et sont très impactés. Et donc, on voit des pertes, par exemple, pendant le premier confinement, qui sont de l'ordre de 80% d'activité, avec un redressement qui était assez intéressant sur l'été, mais qui a été de courte durée. Et donc, c'est vrai, quand on fait le bilan de l'année, on a une situation qui est dramatique pour ces restaurants, pour ces commerces, qui survivent aujourd'hui, on va dire tant bien que mal par, alors il y a des aides d'État, par l'activité partielle, il y a un peu de fonds de solidarité qui a été augmenté, on va dire, et tant mieux.
Il y a les prêts garantis par l'État aussi.
C'est le vrai recours qui a eu lieu, c'est que pour finalement passer la crise, beaucoup de petits commerces ont fait des prêts importants. On a vu vraiment une augmentation très significative, il y a plus de 120 milliards de prêts garantis qui ont été faits depuis le début du confinement, concentrés beaucoup sur des PME, c'est 98% des PME, donc c'est pas des grosses boîtes qui ont l'air insolides. Et donc, ils ont tenu le coup par ces prêts garantis. La question, c'est d'abord, quand est-ce qu'on va sortir de crise? Et donc, quelle va être la stratégie de déconfinement et comment l'activité va pouvoir repartir? Et puis, la question, après, sera le mur de cette dette. C'est-à-dire, comment ces commerçants vont faire pour rembourser de cette dette, sachant que c'est des secteurs assez fragiles, avec des rentabilités qui ne sont pas très élevées. Et donc, la question va se poser. C'est-à-dire que même à l'horizon de 5 ans, même sans parler des charges d'intérêt, pour beaucoup de secteurs, ça passe pas. Et donc, le risque de faillite est extrêmement important.
Oui, parce qu'il faudrait qu'il soit plus productif, plus rentable pour pouvoir rembourser ses dettes supplémentaires. Et ça, on ne sait pas comment le faire, malheureusement. On se retrouve dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Mathieu Plane, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Parlons des cafés, bars, restaurants. Mathieu Plane, on les dit au bord du gouffre. Il faut dire que ce sont les plus gros perdants des mesures sanitaires. Hein. Ils ne pourront jamais récupérer les consommations, les repas qu'ils n'ont pas vendus.
Oui, clairement, c'est vraiment un secteur qui est touché de plein fouet. Il faut savoir que la restauration, ça représente, y compris les cafés, hein, dedans, hein, on est à peu près à 1 million hein, d'emplois en France. Donc c'est conséquent, hein, bien sûr. On voit que même en cas d'ouverture, les mesures prophylactiques faisaient que de toute façon, il n'y avait pas la possibilité d'avoir autant de clients que d'habitude. Donc il y avait quand même une perte de chiffre d'affaires. Et la vraie question qui se pose, hein, qui est un enjeu, à mon avis, qui est essentiel, c'est la question des compensations et des coûts fixes. Et on le voit bien, pour ces secteurs-là, il y a la question des loyers.
Qu'ils continuent de payer leurs loyers. Hein.
C'est là, le, mon avis, exactement l'enjeu important. C'est-à-dire que malgré les dispositifs hein, qu'il faut saluer, parce qu'ils ne sont pas négligeables, hein, mis en place par le gouvernement, ils ne permettent pas de couvrir l'intégralité des pertes, pour beaucoup. Et ça, il faut le savoir, c'est que l'activité partielle, c'est très bien parce que ça prend en charge ce qui est de l'ordre de la masse salariale. Mais quand vous êtes une entreprise, il y a tout ce qui reste des coûts fixes, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de ce qu'on appelle du capital productif, c'est-à-dire les bâtiments et donc les loyers que vous devez occuper, donc les locaux que vous allez utiliser. Il y a les équipements que vous allez acheter, c'est-à-dire que si vous avez investi dans votre restaurant, si vous avez changé des tables, si vous avez fait des travaux, il va falloir le rembourser. Or, si vous n'avez pas d'activité, ces coûts restent. Et donc, on voit qu'on a ce problème-là aujourd'hui, c'est que, quelque part, on peut comprendre la décision du gouvernement de les fermer pour des raisons sanitaires, parce qu'effectivement, l'interaction sociale est très forte et c'est difficile de manger au restaurant avec un masque. Donc,
et
clairement,
on dit, les études américaines disent que c'est le premier endroit de contamination. Enfin, c'est aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes mesures que chez nous.
Voilà, c'est aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on voit bien que si on doit mettre une hiérarchie des risques, les discothèques seront numéro un, les bars vont arriver juste derrière, bars et cafés, et après c'est les restaurants.
Tous les bars et les restaurants pourraient rester fermés jusqu'au 15 janvier, hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui.
Au 15 janvier, voire au-delà, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on va rouvrir. Moi, je pense que la question, il faut la prendre de cette façon-là, c'est que quelque part, le gouvernement a fait le choix, et on peut le comprendre, pour des raisons sanitaires, de fermer ces lieux-là. Donc, c'est pour le bien-être collectif, de dire qu'il faut limiter la diffusion de l'épidémie, diminuer ce qu'on appelle le R0, qui est le degré de transmission du virus. Donc, il faut sacrifier des secteurs. Le gouvernement a fait le choix de sacrifier certains secteurs. Sauf que ce sacrifice-là, il doit être compensé intégralement. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, un problème de rentabilité, de mauvais investissements de ces entrepreneurs.
Oui, ce n'est pas de leur faute, on les a fermés administrativement. Donc, a priori, vous dites qu'il faut compenser totalement la perte du chiffre d'affaires. Pas seulement se contenter de 10 000 euros par établissement ou de prêts garantis par l'État auprès des banques.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une nécessité d'urgence de les fermer pour des raisons sanitaires. Ce choix-là doit être assumé de l'autre côté. La compensation intégrale semble assez évidente parce que sinon, on risque d'avoir des injustices fortes, c'est-à-dire des entreprises, des commerces qui fonctionnaient plutôt bien ou des investissements ont été réalisés qui étaient importants ou il y a eu des embauches, etc., vont se retrouver à devoir mettre la clé sous la porte parce que ce seront beaucoup endettés pour passer la crise et ne pourront pas rembourser par la suite.
En fait, vous dites que le gouvernement, enfin l'État, devrait se substituer aux assurances qui n'ont pas couvert les pertes dues à l'épidémie. On s'en est rendu compte, ça a fait scandale à l'époque. Bon, enfin bon, si elles l'avaient fait, elles auraient toutes fait faillite, les assurances.
Oui, exactement. De toute façon, on est face à un choc macroéconomique qui est tellement important. Rien que pour le premier semestre, nous, nos calculs sur les entreprises, les pertes sont supérieures à 50 milliards. Donc, aucune assurance peut résister. Aucune assurance a provisionné suffisamment pour un tel choc. Donc la question, c'est le rôle d'assureur macroéconomique de l'État. Donc il le fait en partie. Je dis juste que d'un point de vue d'équilibre entre le gain sanitaire à fermer ces endroits-là et la compensation économique, si on fait ce choix-là, il faut en compenser intégralement parce qu'on n'est pas dans un fonctionnement d'économie de marché qui fait qu'on va faire faillite ou pas parce que notre activité ne marche pas, parce qu'on a fait des mauvais choix, des mauvais investissements, on n'est pas au bon endroit. Là, c'est autre chose. Et donc attention, je dis, au sentiment d'injustice qui peut se développer. Parce que ce n'est pas des mauvais investissements qui ont été réalisés, c'est parce qu'on a fait le choix, collectivement, pour justement préserver la santé des Français, de fermer certains endroits. Donc il me semble assez logique d'aller dans une compensation intégrale pour les secteurs administrativement fermés.
Sinon, on parle de deux tiers des cafés, bars, restaurants qui pourraient fermer définitivement. Alors ça dépend, les plus pessimistes parlent des deux tiers, les plus optimistes parlent d'un tiers, c'est-à-dire quand même 50 000 entreprises, 250 000 emplois.
Les chiffres sont énormes. Même une fourchette, on dit le scénario possible. C'est pas nos prévisions pour le coup, mais on entend 30% serait un scénario optimiste. C'est colossal. Avec les effets en chaîne sur l'emploi, bien sûr, qu'on peut avoir.
Mais l'État peut véritablement faire ce que vous préconisez, parce que la Commission à Bruxelles s'inquiète de plus en plus du fait que l'augmentation de la dette publique française ne soit pas soutenable.
Il y a un arbitrage à faire. Et il est bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. L'histoire de la question de la dette publique, aujourd'hui, la Banque centrale permet justement aux États de se refinancer à des taux très bas, voire négatifs, justement pour venir en secours. Maintenant, c'est savoir jusqu'où on met en place ce volet. C'est-à-dire, est-ce que la priorité, la question, c'était par exemple dans le plan de relance, la baisse des impôts sur la production pour 10 milliards, ou justement préserver aujourd'hui le tissu productif existant avant même de construire le monde d'après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire le monde d'après, mais il faut préserver aussi l'existant et faire en sorte aussi que le ciblage budgétaire soit fait de façon assez pragmatique et juste, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce sentiment d'inéquité ou d'injustice qui puisse se développer. Donc je pense qu'on peut aller un cran plus loin. De toute façon, la question des prêts garantis par l'État et son remboursement va se poser assez vite et on va voir que le risque de faillite et le risque social est très élevé, donc on peut avoir de nouvelles mesures, bien sûr.
Mathieu Plane, dernière question, vous le disiez, au fond, c'est tout le tissu économique proprement français qui a été touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Le tourisme, les loisirs, la culture, on peut rajouter l'aéronautique. On dirait que la France est la grande perdante. Tout ce qui fait notre force est frappé de plein fouet. Comment on peut se relever d'un choc pareil?
Ça va être très difficile. C'est vrai que c'était tout ce qui faisait partie de l'attractivité, effectivement, tout ce qui était lié à l'attractivité touristique, culturelle, l'aéronautique, notre fleuron industriel, touché de plein fouet. Donc ça va être extrêmement difficile. Pour se relever, il faut déjà, moi ce que je pense, préserver la base existante, y compris le tissu industriel, avant même de penser aux relocalisations d'industrie. Et donc c'est bien manœuvrer budgétairement de façon à éviter qu'on rentre dans quelque chose en cascade avec des conséquences structurelles, c'est-à-dire qu'on ait des conséquences durables sur notre production, sur notre emploi de cette crise-là. Donc il faut accepter de préserver, de mettre beaucoup dans l'instant même pour faire qu'on se relèvera peut-être plus facilement après, parce que si on ne va pas assez loin, on risque d'avoir des conséquences assez dramatiques et avec un problème de réversibilité de tout ça.
Merci Mathieu Plane d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant, on va parler de l'affaire Jonathan Daval, le procès. Pourquoi ce procès-là ?
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Le procès de Jonathan Daval, accusé d'avoir assassiné sa femme Alexia il y a 3 ans, est l'objet d'une couverture médiatique extraordinaire, difficile d'y échapper. À première vue, il s'agit pourtant d'une affaire assez banale, pas du tout d'un phénomène de société. Alors pourquoi suscite-t-elle une telle curiosité ? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai invité Bob Garcia, l'auteur d'Anatomie du fait divers, qui vient de paraître chez Des Clés de Brouwer. Bonjour Bob Garcia.
Bonjour Frédéric.
Le fait divers, je crois que c'est Didier Decoin qui disait cela. Le fait divers, c'est la piqûre de moustique. L'affaire, c'est l'épidémie de peste qui en découle. Alors, dans le cas de Jonathan Daval, beaucoup s'étonnent de l'épidémie de peste qui a découlé d'un fait divers aussi banal. C'est l'histoire d'une jeune femme qui disparaît en faisant du jogging. Son mari ameute la police. On retrouve le corps admis calciné. Vive émotion, surtout pour les joggeurs et les joggeuses qui, tout à coup, font moins de jogging. Il y a 8 000 personnes qui participent à une marche silencieuse. Et puis au bout de 3 mois, le mari, Jonathan Daval, informaticien de 34 ans, avoue avoir étranglé son épouse. Bon ben voilà, ça devrait être une affaire classée, non ?
Un classique, hein, voilà, ça on le voit tous les jours. Presque.
Presque.
Non, en fait, je crois que c'est la personnalité des protagonistes qui intrigue les gens et qui parle vraiment fondamentalement à notre subconscient, à notre âme. Comment on en arrive là ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant ? C'est tout ça qui intéresse plus, à la limite, je dirais, c'est malheureux à dire, mais plus que le meurtre lui-même.
J'ai regardé dans votre livre, vous insistez sur la mythologie du fait divers. Hein. Or là, il n'y a pas de malle sanglante, il n'y a pas de pique à glace. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un corps calciné et puis il y a une joggeuse. Puisqu'au départ, on croit qu'elle faisait du jogging, c'est ce qu'a raconté son mari. Donc j'imagine que le jogging, ça a dû jouer. Il y a eu d'autres meurtres de joggeuses. Forcément, ça a parlé à l'imagination.
Oui, le jogging et la fille qui a été... Bon, il a essayé de la brûler. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Ça fait partie de la mythologie hein, quand même, ces deux éléments-là. Il y a pas mal de gens qui n'osent même plus sortir faire du jogging parce que c'est rentré dans le mythe quoi. Vous êtes une femme, vous êtes habillée avec un survêtement fluo, on vous voit de loin, etc. Vous n'avez peut-être pas forcément la même envie de faire du jogging qu'avant à cause des meurtres qu'il y a eu quoi. Donc c'est peut-être ça le déclencheur de cette affaire, ce qui a intrigué les gens au départ.
Après qu'il ait avoué Jonathan Daval, on a compris, en tout cas si on le croit, que sa femme le dominait, qu'elle l'humiliait, qu'elle lui reprochait de ne pas parvenir à lui faire un enfant, il l'aurait étranglé au cours d'une dispute. C'est de cela hein, qu'on parle en ce moment au procès. Hein. Ça a joué ça, à votre avis, dans la passion qu'ont mis et les médias et le public à s'intéresser à cette affaire ?
Alors là, carrément. Je pense que c'est bien plus que on parlait de la mythologie, là, de la joggeuse, la femme brûlée, etc. Là, c'est là que les gens, à mon avis, sont intrigués parce que ça leur parle vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Comment on en arrive là ? Quelle est la personnalité de tous ces protagonistes, d'ailleurs pas seulement lui, hein. Comment il a été élevé, qui sont ses parents à lui, qui l'a renié puisqu'il disait qu'il n'avait pas de famille, etc. Il a menti tout le temps. C'est plus ça le nœud gordien et ce qu'on essaye de comprendre. C'est ça qui intrigue les gens, je crois.
Et justement, est-ce que c'est une bonne galerie de personnages ? Pardon d'employer un langage un peu trivial, mais dans les faits divers, on sait bien, et quand on lit votre livre, Anatomie d'un fait divers, on voit bien qu'il faut une galerie de personnages pour qu'un fait divers prenne.
Oui, là, moi je pense que c'est une super galerie de personnages, c'est terrible d'utiliser ce mot-là parce qu'on se croirait au cinéma ou au théâtre, mais c'est pas des personnages vraiment hors du commun. Vous avez des serial killers, bon bah là, les gars, vous les repérez tout de suite. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils sont terribles, terrifiants, tout ce que vous voulez. Là, c'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde, c'est la famille la plus normale qui soit, la plus aimante qui soit, qui le considère comme son fils, les parents d'Aval, d'Alexia la considéraient comme leur fils. Donc c'est terrible, quoi, hein.
L'attrait du suspense, c'est primordial hein, pour ceux qui s'intéressent aux faits divers. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y en a vraiment dans cette affaire ? C'est vrai que bien que l'on ait trouvé plusieurs preuves contre lui depuis ses aveux, au bout de 6 mois, Jonathan Daval, il revient sur ses déclarations. Il nie tout à coup avoir tué sa femme et il accuse son beau-frère. Il parle d'un complot familial. Personne ne le croit, mais j'imagine que c'est un rebondissement qui a de l'intérêt.
Complètement. D'ailleurs, le fait divers, d'une manière générale, ça intéresse une partie de la population qui se place en quelque sorte dans la peau de l'enquêteur. Chacun a son hypothèse, son idée là-dessus. Je connais une personne dans mon entourage, ma belle-sœur, pour pas la nommer, qui a vu la première fois à la télé, dans la première seconde, elle a dit « il a tué sa femme ». Sans aucune autre...
Malheureusement, ça a parfois envoyé des innocents à la guillotine.
Ouais, cette espèce d'intuition délirante, quoi. Mais elle a vu juste, hein, mine de rien. Mais pourquoi, comment et pourquoi les gens se mettent comme ça, s'investissent dans la peau de l'enquêteur et ça leur parle tellement, de manière tellement profonde qu'ils ont envie de trouver une solution. Ça fait partie du ressort, oui, je crois que ça fait partie de l'énigme à résoudre.
En même temps, quand tout vous accuse, que vous avez vous-même avoué au bout de 6 mois de dire non, en fait, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas moi, c'est ma belle famille. Est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux ?
Ah oui, parce qu'il y a encore ce pourquoi. Pourquoi et comment on en arrive là ? Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a fait tout ça ? Il l'a tué, c'est terrible encore à dire, peut-être il s'est emporté de manière inconsidérée, il n'avait peut-être pas envie d'aller jusque-là, mais il l'a fait, et après il a voulu maquiller tout ça pour pouvoir conserver peut-être sa belle famille. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de suspense à travers la psychologie de tous ces personnages. C'est ça, je pense, qui intéresse vraiment les auditeurs.
Et puis il y a la question sur les motivations, sur les sentiments. Est-ce qu'il aimait sa femme ? Est-ce qu'il aime sa belle famille ? Est-ce qu'il aime ses parents ? Est-ce qu'on l'aime ? Les gens ont l'air de se poser véritablement ces questions-là, surtout pendant le procès.
Voilà, vous avez tout dit. Je crois qu'il est là le fond du problème. C'est pas le meurtre en lui-même, c'est pas la façon dont il a procédé, etc. C'est la psychologie de tous ces personnages. Il est là, le ressort. L'énigme à résoudre, elle est là. Et je pense qu'on va encore en entendre parler pendant pas mal de temps, parce qu'il a pas tout dit. Et on n'a pas tout compris, on n'a pas tout su, et on ne sait toujours pas tout sur cette affaire-là.
Et pour ceux qui aiment la psychologie, les procès français, c'est formidable, puisque c'est le portrait de l'accusé que l'on fait. On se retrouve dans un instant avec Bob Garcia.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Anatomie du fait divers, c'est le titre du nouveau livre de Bob Garcia. Je dis nouveau livre parce que vous êtes également auteur de romans policiers. Celui-ci vient de paraître chez Desclés de Brouwer et il sort bien à propos puisque nous sommes en pleine affaire Jonathan Daval, enfin en pleine affaire, en plein procès. Oui. Et ça occupe beaucoup de temps dans les médias. Or, justement, ce procès, il aurait pu commencer mal. Le premier jour, le 16 novembre, Jonathan Daval, qui s'est rétracté à plusieurs fois, qui a beaucoup menti, il reconnaît être le seul impliqué dans la mort de sa femme. Tout ce qu'il a vu dit, vous l'oubliez, j'étais tout seul, c'est moi qui l'ai tué. On pourrait se dire, bon, bah, c'est terminé, le procès est fini, et pas du tout, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'y intéresse.
Et que ça commence en réalité. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit ça et qu'on a résolu l'affaire, il n'y a plus d'énigme à ce niveau-là. Mais encore une fois, pourquoi, comment, quels sont les ressorts, qu'est-ce qu'il a vécu avant, comment se passait leur vie de couple. Et ça parle à tout le monde, ça, parce que chacun, tous ceux qui sont en couple, monsieur et madame, bah, ils sont peut-être énervés l'un par l'autre à un moment donné, jusqu'où ils peuvent aller. Et ça fait résonance avec l'état dans lequel on se trouve actuellement à cause du confinement. On est tout le temps les uns sur les autres, il faut se supporter, il faut se tolérer, il faut continuer à s'aimer, à vivre ensemble. Donc c'est là aussi un des ressorts de cette affaire-là. Et pourquoi ça intrigue autant chaque personne ?
L'identification, oui, pourquoi pas, c'est sans doute vrai, vous avez évidemment raison, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la répulsion ? C'est-à-dire qu'au fond, quand on s'intéresse à un procès comme celui-ci, on regarde quelqu'un qui nous est étranger, justement. Il a fait ça, il s'est mis au banc de la société. Je m'intéresse au procès aussi parce que je suis loin de lui et parce que je suis en droit de le juger.
Complètement. C'est un miroir, hein, le fait divers. Et à un moment donné, l'actualité nous brandit à la face un miroir en nous disant « voilà ce qu'il a fait, lui. Comment tu fais, toi ?» Alors, tu te regardes dans ce miroir-là et comment tu te juges. C'est ça, donc. Alors, ça nous donne aussi des limites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Jusqu'où il ne faut pas aller, si on peut dire. Donc, effectivement, c'est une façon de se jauger, de se mesurer, de se conforter aussi dans le fait qu'on, nous, on est dans la bonne direction et qu'on agit de manière correcte. Mais qu'attention, ça peut dériver assez vite. Donc, il faut être tout le temps vigilant. C'est ça, c'est un garde-fou. Hein, c'est ce type de fait divers.
On comprend bien pourquoi la France entière a pu être fascinée par un criminel de l'envergure de Landru. Landru, c'était il y a un siècle. Hein, ouais. Mais Landru, c'est quelqu'un qui toise tout le monde, qui est d'une intelligence extraordinaire, qui a beaucoup d'humour, d'humour, d'un cynisme fantastique et surtout qui n'avouera jamais. Oui. Et puis qui a tué beaucoup plus que Jonathan Daval. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, il recevait des lettres d'amour de jeunes femmes. Il a beaucoup séduit Landru pendant son procès. Avec Jonathan Daval, on n'est pas du tout dans cette série-là. Hein. On a un homme qui a beaucoup menti, médiocrement, mal menti, qui a tout reconnu, qui s'est rétracté pour reconnaître ensuite. On se demande qu'est-ce qui peut fasciner les gens chez cet homme-là qui n'a rien d'un Landru, justement.
Ah, vous avez complètement raison, c'est l'anti-Landru par excellence. Il n'a pas de charisme, on le sent vraiment pleurnichard, un peu faible, un peu mal dans sa peau. Enfin, voilà, c'est... Mais justement, il est tellement proche. Landru était vraiment loin des gens. Il fascinait, c'était une espèce d'icône, malgré tout ce qu'il avait fait et tout ça. C'était un personnage hors du commun. Lui, il est tellement dans le commun et il nous ressemble tellement qu'on s'y assimile. Et c'est pour ça que ça intéresse les gens, parce que ça nous parle encore une fois de manière très très profonde. Pourquoi lui, pas nous, finalement, hein ? Donc c'est ça qui intrigue les gens. C'est pas le charisme du personnage, ça je pense pas. Hein.
Quand on a appris la mort de son épouse, il y a eu une marche, je l'ai dit, de 8000 oui, personnes. Oui. C'est devenu un rituel hein, depuis quelques oui, années. Oui. On s'aperçoit d'ailleurs après que souvent l'assassin est en tête, et ça devait être le cas cette fois-ci. Mais bon, ce rituel en tant que tel, on sait que ça ne fera pas revenir la victime, ça n'abolira pas les crimes, et il y en aura malheureusement toujours. On a beau faire des marches blanches, on sait qu'il y aura toujours des crimes. Quel rôle ça joue aujourd'hui ? Parce que c'est souvent le point de départ d'un fait divers.
C'est l'empathie. Heureusement encore que quand il y a un fait divers, il y a des gens qui se sentent en phase avec les victimes et qui essayent de leur apporter un soutien. Alors c'est à travers une marche blanche, on ne peut pas faire grand-chose une fois que la personne est partie, est morte. C'est une personne aussi qui va appeler au secours parce que sa petite-fille a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et là, vous avez comme par hasard des centaines et des milliers de gens qui vont donner de l'argent. Donc c'est le côté empathique, c'est le côté humain, le bon côté de l'humain. Heureusement que ça existe.
Depuis l'abolition de la peine de mort, il y a moins de suspense sur la sentence qui attend un homme comme Jonathan Daval. Et pourtant, les gens continuent de se passionner pour le procès, bien qu'ils en sachent a priori l'issue.
Presque. Alors, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas de suspense au sens où on ne va pas le tuer ou pas le tuer, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un petit suspense sur la durée de la peine, la façon dont il va être puni. Qu'est-ce qu'on va lui dire exactement ? Est-ce que c'est un homicide volontaire, involontaire ? Est-ce qu'on va finir par retenir ses pleurnicheries en disant oui, finalement, c'est presque lui la victime ? Auquel cas, ça peut amoindrir la durée de détention, etc. Donc, il y a un suspense de ce côté-là. Et encore une fois, le vrai suspense qui va se dérouler lors du procès, c'est toutes les révélations qui vont être distillées au fur et à mesure des jours de procès.
Merci Bob Garcia. Anatomie du fait divers vient de paraître chez Des Clés de Brouwer. On se retrouve dans 2 minutes avec une chanteuse, elle s'appelle Bonnie Banane.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Bonnie Banane, vous sortez votre premier album, Sexy Planet. On en écoute tout de suite un extrait, le morceau s'intitule Flash.
J'ai tendance à tout mélanger, par qui, par où commencer. Je m'en mêle les pinceaux, la mémoire me fait défaut. La chronologie de l'été, s'il a vraiment fait chaud, j'inverse toutes les dates et je confonds les gens. Est-ce le ressac des vagues ou le cerveau volant? Une chose peu bavard, mais très élégant. Traversant la rue, ça m'a plu. Je m'en souviendrai souvent. Je m'en souviendrai souvent.
Est-ce que c'est votre vrai nom, Bonnie Banane?
Oui, mes parents m'ont appelé comme ça. Ils ont eu un peu de culot de le faire, mais je les remercie quand même.
Maintenant, on ne s'étonne plus de rien avec les chanteurs et les chanteuses. Ils prennent des noms de projets souvent. C'est une façon de vous effacer, non ?
Peut-être, je sais pas. Ouais, de disparaître d'une certaine façon, mais non, c'est plutôt une façon justement d'exister quand même. Hein.
D'exister différemment. Il y avait déjà eu des bananes hein, dans l'histoire de l'art, chez Joséphine Baker, normalement, notamment, qui les portait autour de la taille, mais chez Ben, chez Andy Warhol, chez Banana Yashimoto, même chez Georges Simenon. Pourquoi vous avez choisi la banane, vous ?
C'est un peu un accident, hein. C'est juste parce que ça sonne bien. C'est pas juste banane qui m'intéresse, c'est l'alliage avec Bonnie banane que je trouve que c'est le meilleur nom sur terre. Je trouve que ça rebondit, je trouve que c'est rond, que c'est chaud, et voilà. Et puis en fait banane, ça m'intéresse parce que il y a tellement de façons d'utiliser ce mot que je trouve que ça représentait bien ce que j'avais envie de faire dans l'écriture, en tout cas.
Quand on entend les noms dont s'affublent les chanteuses et les chanteurs, c'est un petit côté cours de récréation. Je trouve ça merveilleux. Bonnie Banane, vous devez avoir 27 ou 28 ans, c'est formidable. Mais si vous faites une très très longue carrière, elle est Johnny Hallyday ou elle est Mick Jagger, quand vous serez septuagénaire et qu'on vous appellera Bonnie Banane, vous pensez quoi ?
Est-ce que vous pensez que j'existerai encore à ce moment-là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre.
Vous êtes bien parti.
Peut-être que je me dissoudrai dans un groupe.
Ah oui, ça pourrait être ça. On écoute un extrait de Sexy Planet qui donne son nom à l'album. Sexy Planet, Sexy Planet, Sex, 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 Sexy Planet, Sexy Planet, Sex, 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 Sexy Planet, Sexy Planet, Sex, 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 Sexy Planet, Sexy Planet, Sex, Sex, Sex. She's water. She's everything you need and more. But she's playing hard to get. Ha. Yeah, she's playing hard to get. She go mad. Woo! She go crazy. Sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. Sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. Sexy planet, sexy planet. Bonnie Banane, vous la trouvez vraiment sexy, cette planète ?
Bah, j'essaie de lui faire des compliments, c'est ça que j'essaie de faire.
Pour
je
l'apaiser,
trouve que oui.
Pour l'apaiser.
Pour l'apaiser, pour qu'elle m'épargne, qu'elle nous épargne un petit peu encore. Mais je trouve que oui, en fait, la nature, c'est vraiment extrêmement sexy. Plus que tout, la mer, je sais pas, les paysages, en fait, en tout cas, c'est ce que je préfère, c'est ce que je mets en numéro un, disons.
Mais même en ce moment, parce que c'est vrai que la planète a pris un drôle de tour ces derniers temps. On nous voit moins, nous les humains.
On nous voit un peu moins, ouais, mais c'est ça. Mais je pense que c'est bien pour elle. Mais non, j'ai fait un amalgame. J'ai associé la planète à une femme un petit peu dans ma tête depuis des années. La planète, c'est comme les femmes, en fait. C'est très généreux, très. Très, ça offre beaucoup de choses et c'est bafoué et ça commence à se mettre en colère, en fait, en gros.
Oui, c'est une bonne métaphore, effectivement.
L'amalgame, il est là. Ouais.
On écoute un extrait de Béguin.
À ta vue, je m'évanouis, prends mon pouls. C'est la cata, je louche et ça devient flou. Fais-tu exprès de me plaire? On peut lire sur toi comme dans un livre ouvert. C'est l'effet que tu me fais. 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 Complètement à l'ouest, j'ai perdu le nord, le sud. Faudrait pas que ça devienne une habitude. J'ai des effets secondaires. Des genoux qui flanchent et le mal meurt. Eh bah dis donc, eh bah dis donc. C'est le chaos qui prend son désir pour des réalités. Et ça va crescendo. À qui la faute si je bégueule? Vas-y, mollo. Bébé, wow. C'est l'effet que tu me fais. Bébé.
Bucky Banane, si j'ai bien compté, ça fait 8 ans que vous faites de la musique, 8 ans qu'on vous voit dans des clips. C'est long, 8 ans. Hein. En 8 ans, les Beatles ont sorti tous leurs disques, soit 12 albums, et vous, aucun. Enfin, vous avez mis 8 ans pour faire le premier. Vous aviez quoi? Vous aviez mieux à faire?
sûrement, je sais pas, j'ai pris mon temps. Et puis, il y a diverses raisons. Je pense que je me sentais pas prête, que je voyais pas pourquoi j'aurais un album à faire. Et puis, un jour, je me suis trouvée prête. Et puis, j'ai quand même pas mal mis de temps à trouver mon setup, mon équipe, en fait. Ça a mis du temps.
Vous êtes formidable dans les clips, alors on s'est pas ennuyé pendant ces 8 ans, vous êtes formidablement bien habillé, vous arrivez à une alliance du rythme et de la naïveté qui est assez rare, généralement quand on est naïf on est lent, vous non.
C'est gentil.
Ouais, et j'ai l'impression que votre génération se retient, elle ne sort pas des morceaux aussi souvent que les générations précédentes.
Ah, vous trouvez? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas envie de prendre toute la place. J'ai envie qu'il y ait de la place pour tout le monde, que d'autres artistes, en fait, prennent de la place. Moi, j'ai pas envie de m'étaler. J'ai envie d'être concise, d'être synthétique. Et je trouve qu'il y a vraiment trop d'informations aujourd'hui, trop de musique qui sort. Et je ne veux pas envahir le paf.
D'accord. Donc, ce sera un album et c'est tout. Et vous êtes
prévu. Et c'est tout, après j'arrête.
Vous êtes prévu pour le 18 mars à La Cigale. Vous touchez du bois?
Je touche du bois. Alors, est-ce qu'il y a du bois? Ah oui, il y a du bois. Je touche du bois. Ça y est.
Eh bien, on sera le 18 mars à La Cigale, si tout se baisse bien. Je rappelle
avec
que
plaisir.
Cet album s'intitule Sexy Planète. Merci.
Sexy.
Merci.
Merci beaucoup.
Polly Banane.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Catherine Ney et Olivier Duhamel pour Mediapolis. Quel est le programme, Olivier?
Avec Henri Guénaud qui publie De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque.
Bonne émission.